Bonjour frères et sœurs. Donc, nous étudions l'Évangile de Jean. Nous avons vu la semaine passée dans Jean chapitre 2 que Jésus est allé au temple au début de son ministère. Il va y retourner aussi, au moins à chaque fête de Pâques pendant son ministère, mais il est allé puis il a commencé par purifier le temple. On a vu le zèle pour la maison. C'est la maison de son père. C'est normal qu'il a ça à cœur et il a chassé ceux qui en avaient fait un centre commercial. Puis, il a annoncé d'une manière voilée sa mort et sa résurrection, parce qu'il dit « Le temple sera détruit et sera rebâti en 3 jours. » Mais il parlait de lui-même, de son propre corps, qui allait être mis à mort environ 3 ans plus tard, mais qu'il allait ressusciter. Et il a fait plusieurs miracles aussi qui ne sont pas rapportés dans le texte ici, mais il a conduit plusieurs personnes qui en ont été témoins à croire en lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont cru à propos de Jésus? Est-ce qu'ils ont réellement cru en Jésus? Est-ce qu'ils ont cru que Jésus était le Christ qu'ils attendaient? On ne sait pas. Est-ce que leur foi se basait seulement sur les miracles de Jésus? Il n'est pas dit qu'ils ont cru aux paroles de Jésus. Ils ont cru que Jésus est un faiseur de miracles et peut-être digne de confiance. Est-ce qu'ils ont cru qu'il était l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur? On ne sait pas. La conclusion du passage qu'on lisait la semaine passée, c'est que Jésus ne se fiait pas à eux. C'est-à-dire qu'il ne se fiait pas à ce qu'ils affirmaient. Même ceux qui disaient « Ah, je crois en toi, je sais qui tu es. » Jésus ne se fiait pas à leurs paroles parce qu'il voyait dans le cœur. Jésus connaissait toute personne. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Jésus les connaissait tous parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Et c'est encore vrai, soyez sûrs, que Jésus, même s'il n'est pas en chair et en os devant nous, vous connaît parfaitement, vous connaît mieux que vous-même. Il sait vraiment ce qui est dans votre cœur, dans vos pensées intimes. Donc, Jésus va rencontrer dans la suite du récit plusieurs personnes. Et c'est le thème qui est sous-entendu, c'est que Jésus connaît vraiment ce qui est dans le cœur de la personne. Pourtant, chaque personne qui va venir provient d'arrière-plans différents, ont des questions différentes, parfois des problèmes différents. Et Jésus les connaît très bien. Et la première personne qu'il va rencontrer, c'est Nicodème, un spécialiste des Écritures, des mots anciens. Je vous invite à lire ce passage-là, Jean 3, versets 1 à 21. L'Évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 1. Jean 3, 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Nicodème reprit la parole, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? » en vérité, je te le dis, nous disons que ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Wow, c'est tout un passage, hein? Il contient un des versets les plus connus de la Bible, certainement celui qui est le plus cité. Même Carey Price avait Jean 3,16 sur son casque de gardien de but. Combien parmi vous connaissez ce verset par cœur? Ben oui, parce que c'est au cœur de la foi chrétienne, c'est au cœur de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On cite souvent ce verset-là, mais parfois on oublie dans quel contexte il a été donné. Et c'est dans le contexte d'une réponse à un maître de la loi, un chef religieux des Juifs, à Nicodème. C'est dans le contexte où Jésus enseigne comment entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne pas périr et obtenir la vie éternelle, c'est une manière de parler de comment entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jésus est en train de dire de manière très solennelle, il le déclare, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. On n'a pas le choix, seulement ceux qui naissent de nouveau peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? On peut séparer le texte en deux parties. Il y a deux aspects primordiaux à cette nouvelle naissance-là. D'abord, la nouvelle naissance, elle est accomplie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait naître. Et deuxièmement, la nouvelle naissance est obtenue par la foi en Jésus. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Je ne pense pas. Donc, la nouvelle naissance est accomplie par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, la nouvelle naissance est obtenue par la foi en Jésus. Donc, voyons les versets 1 à 13 d'abord. La nouvelle naissance est accomplie par le Saint-Esprit et donc, c'est dans le domaine invisible, intangible. C'est invisible. Mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. Donc, c'est d'abord, le texte introduit Nicodème qui vient voir Jésus. Il est un pharisien. C'est un des ordres des Juifs, des chefs religieux juifs, des étudiants de la Bible juive. Et l'ordre des pharisiens, cette secte, ouais, c'est la plus considérée. C'est celle qui avait la réputation d'être les plus pieux, les plus connaissants des Écritures. Et ils étaient habituellement au temple, dans les synagogues aussi, mais c'est eux qui avaient pas mal le pouvoir, là, l'autorité parmi les religieux juifs. Et en plus, Nicodème, non seulement qu'il était un pharisien, il était un chef des Juifs. Donc, parmi les pharisiens, il est considéré comme un des chefs. Et même Jésus va dire plus loin au verset 10, même si Nicodème ne lui a pas été présenté, mais Jésus connaît tout homme, et Jésus va dire de Nicodème, « Tu es le docteur d'Israël. » Peut-être qu'il s'était autoproclamé docteur, ou en tout cas, il était connu pour être le docteur d'Israël, donc celui qui connaît les Écritures, celui qui enseigne la voie, le rabbi. Et Nicodème vient voir Jésus de nuit. Je suppose que c'était pour ne pas entacher sa réputation. Sa réputation était précieuse pour lui, donc il vient un peu en cachette. En tant que représentant de son clan, parce qu'il parle au nous, mais il vient seul. Je pense qu'ici, le portrait qui est dressé de Nicodème est plutôt négatif. Vous avez sûrement un avis, là. C'est pas la première fois que vous lisez ce passage-là, mais je pense que le texte veut nous montrer un portrait assez négatif de Nicodème. Ses questions ne sont pas nécessairement sincères, son attitude n'est pas des plus favorables. Mais on apprend par la suite dans l'Évangile de Jean, un jour il va prendre la parole pour défendre Jésus, pour le protéger parce qu'il était condamné sans même avoir eu de procès. Et lorsque Jésus sera mis à mort finalement, il va lui-même venir apporter des parfums pour embaumer le corps de Jésus. Donc, il semble que, c'est très probable que si Jean prend la peine d'introduire ce personnage-là, de le nommer, c'est parce que par la suite, il était connu parmi les chrétiens. Je pense qu'après la résurrection de Jésus, il est l'un de ceux qui se sont convertis, qui ont cru en Jésus, qui ont dit « Wow, c'était vraiment le Messie » et qui a reçu le Saint-Esprit. En tout cas, on le saura un jour. Mais dans le passage ici, il ne paraît pas dans son plus beau jour. Mais il vient voir Jésus, puis il s'adresse à lui en l'appelant Rabbi. Ça, c'est une marque quand même de respect, ça veut dire maître. C'est le titre que les Juifs utilisaient pour s'adresser à quelqu'un qu'ils considéraient en position de les enseigner. Donc, ils considéraient que Jésus était un enseignant. Puis il ajoute, « Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est vrai. Puis s'il est sincère, ce qu'il dit à propos de Jésus est juste. Mais c'est incomplet. C'est même un peu décevant. Si c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de Jésus, c'est quelqu'un qui peut enseigner. Il y a beaucoup de gens là, qui enseignaient dans les synagogues. Et ce qu'il enseigne est approuvé de Dieu. Là, il vient vraiment avec un message de la part de Dieu. Mais je crois que c'est parce qu'il est justement de ceux qui ont cru en Jésus, simplement parce qu'ils ont vu les miracles. Mais Jésus ne se fie pas simplement à leurs paroles parce qu'il voit leur cœur. Donc, il a cru au miracle de Jésus, mais pas à cause des paroles de Jésus. Parce que sinon, il aurait entendu ce que les disciples disaient de lui, ce que Jean-Baptiste a dit de lui, ce que Jésus enseignait, même si on n'a pas encore le rapport ici de l'enseignement de Jésus, mais on sait que Jésus enseignait là, qu'il était celui qu'on attendait. Donc, il ne dit même pas que Jésus est un prophète, et encore moins qu'il est le Christ. Ensuite, il parle au « nous », la première personne du pluriel. Donc, il se fait comme le représentant du clan des pharisiens, mais c'est peut-être aussi une manière d'éviter de révéler son opinion personnelle. « Nous pensons cela, nous savons cela. » C'est peut-être aussi une forme d'arrogance. « Nous avons évalué là, qui tu es, là, puis nous sommes arrivés à la conclusion que tu es un enseignant » qui vient de la part de Dieu. Comme si la parole de Jésus ne serait pas suffisante. Eux, ils l'ont évalué. Il y a un peu d'arrogance dans cette parole-là, comme si lui pouvait savoir, de toute façon. Puis Jésus lui répond, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » C'est assez pour refroidir Nicodème, ici. Le piquer dans son orgueil. Est-ce que Jésus est en train de lui dire que même lui, un chef parmi les chefs là, en Israël là, n'aurait pas tout de suite son ticket pour entrer dans le royaume des cieux. Même lui devrait naître de nouveau. Ça peut être insultant pour lui. Mais ici, pourquoi Jésus lui répond ça? Nicodème vient lui parler puis il dit « Je sais que tu es un homme qui enseigne de la part de Dieu. » Puis Jésus lui répond « Si tu ne nais pas... » En fait, il ne parle pas à lui, mais il dit, si une personne ne naît pas de nouveau, elle ne peut pas voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est quoi le rapport? Je pense que le rapport, c'est le mot « voir ». Celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu, ne peut pas voir le monde spirituel et ne peut pas encore moins voir la vraie nature de Jésus. Puis c'est intéressant, quand Nicodème dit « nous savons », que tu es un enseignant, un maître. Le verbe « savoir » ici en grec, le sens fondamental, littéral de ce verbe-là, c'est « voir ». Si on traduisait littéralement, c'est « nous voyons que tu es un maître venu de Dieu ». Jésus lui répond, « Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir. Tu n'es même pas en mesure d'évaluer qui je suis. Tu ne peux pas, en tout cas, tirer une évaluation juste. Pour vraiment voir, pour savoir... Tu dois naître de nouveau, sinon tu ne verras pas le royaume des cieux. Donc, c'est comme si Jésus lui répondait, « Tu ne peux pas voir qui je suis réellement, spirituellement, comme tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu, à moins que tu ne naisses de nouveau. » Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Nicodème argumente, « Est-ce qu'il faut retourner dans le ventre de sa mère pour naître une deuxième fois? » Vous voyez, ici, il y a un lien avec la fête des mères. Si vous voulez être une bonne mère, vous devez accepter que votre fils ou votre fille puisse retourner dans votre ventre et naître à nouveau. Mais ici, Nicodème, je pense qu'il est de mauvaise foi. Il sait très bien que ce n'est pas ça que Jésus veut dire. Il argumente, c'est peut-être dans son habitude, c'était la manière là, chez les Juifs d'argumenter les réponses, mais il dit à Jésus qu'il est le maître, mais il n'accepte pas. Là, il est pas mal incrédule. Il y a plusieurs qui ont noté, quand on peut lire le texte original qui est en grec, plusieurs ont noté que lorsque Jésus dit « naître de nouveau », le mot qui est utilisé littéralement veut dire « naître d'en haut ». Dans le contexte, on sait que naître d'en haut, ça, c'est comme si on est déjà né d'en bas. Si on est d'en haut, ça s'ajoute. Donc, c'est une nouvelle foi. Donc, dire naître de nouveau, c'est un peu comme une interprétation. C'est vrai, c'est la bonne. Parce que Nicodème, il a très bien compris qu'il s'agissait de naître une deuxième fois. Puis Jésus ne le corrige pas quand il dit ça. C'est vrai qu'il s'agit de naître une deuxième fois. Mais c'est vrai aussi que c'est une naissance d'en haut. Une naissance qui est céleste. Une naissance qui est du ciel. Jésus dit effectivement que cette deuxième naissance-là est d'en haut, puisqu'il ajoute qu'elle est d'esprit et non de chair. Il faut naître d'esprit. On est déjà né de chair, mais cette nouvelle naissance-là, ce n'est pas simplement un changement de vie, un changement d'habitude. Ce n'est certainement pas un changement dans notre corps physique. C'est un changement spirituel. C'est une nouvelle naissance où notre esprit reprend vie. Quand on a étudié le prologue de l'Évangile de Jean, au chapitre 1, rappelons-nous qu'il est dit que Jésus est la parole de Dieu qui est venue sur terre pour que ceux qui la reçoivent puissent... Vous en souvenez-vous? Au verset 12. Ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais si on devient enfant de Dieu, ça implique une nouvelle naissance. C'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Donc, nous, quand on lit l'Évangile, c'est pas nouveau. C'est un rappel à ce qui a été introduit. Mais pour Nicodème, il semble que c'était nouveau. Mais ceux qui reçoivent la parole de Dieu venue sur terre peuvent devenir des enfants de Dieu, renaître dans sa famille. Jésus dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau fait référence à quoi ici? Là, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais il y en a deux que je retiens qui font du sens. La première, c'est pour faire référence au baptême de Jean-Baptiste, où le baptême représente la repentance, où celui qui se repent de sa vie de péché, de se consacrer à Dieu, le symbolise en étant plongé dans l'eau, ce qui va devenir le baptême chrétien, où on est baptisé au nom de Jésus. Il y a une deuxième interprétation que je préfère parce que c'est le baptême du Saint-Esprit qui n'est pas nécessairement lié avec une pratique terrestre. Lorsqu'on baptise quelqu'un dans l'eau, c'est un symbole qu'on fait. Mais je pense que le baptême d'eau ici est vraiment lié à celui de l'Esprit. En fait, c'est une même chose. C'est le baptême d'eau et d'Esprit. En fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi il parle d'eau? Parce que ça fait référence à l'Ancien Testament. Et lorsque Nicodème se pose la question, mais comment ça peut se faire cette chose-là? Ce que Jésus lui répond, c'est tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses-là? Donc Nicodème était censé le savoir. Donc ça fait référence vraiment aux Écritures. La réponse se trouve dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui était à la portée de tout juif qui étudiait les Écritures. Et quand on relit les prophéties qui annoncent la venue du Saint-Esprit, bien, il y a comme deux actions que le Saint-Esprit va faire. L'une qui est de purifier, et c'est symbolisé par de l'eau. C'est comme si Dieu répand de l'eau pour purifier des péchés. Dieu annonce, je vais vous purifier de vos péchés. Je vais répandre sur vous une eau purificatrice par le Saint-Esprit. Et la deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il fait revivre les morts. Je vais vous lire un extrait dans Ézéchiel 36, verset 25. « Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Donc, il est question de l'eau et de l'esprit. Mais les deux, c'est par l'action de Dieu, par son Saint-Esprit. Et au chapitre suivant, chapitre 37, Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Parce qu'Ézéchiel avait une vision où est-ce que tout le monde était mort. Et s'il regardait le monde aujourd'hui, même en 2025, s'il avait des lunettes spirituelles, c'est ce qu'il verrait, les gens qui sont morts. Mais le Seigneur, l'Éternel, dit à ses eaux, « Voici ce que je vais faire venir en vous, un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vraiment une nouvelle vie, une nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Mais c'est ce que Jésus annonce. Le Nouveau Testament confirme que tous les humains sur la terre sont morts spirituellement. Même ceux qui se croient bien vivants sont morts à cause de leur péché. Et comme tous ont péché, tous sont morts. Jusqu'à ce que Dieu opère cette nouvelle naissance-là. Donc, ce n'est pas que les gens, un jour, vont mourir spirituellement à cause de leur péché. Ils sont morts à cause de leur péché. Et l'action de Dieu, ce n'est pas de leur faire éviter une mort spirituelle, c'est de les ressusciter, de leur redonner la vie, de leur donner une nouvelle naissance. Éphésiens 2, 5 et 6 le dit. Et là, Paul s'adresse à des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais il leur rappelle... Ne vous glorifiez pas, là. Nous étions morts par nos fautes. Mais il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, c'est une opération de Dieu qui est invisible à nos yeux. Mais dont les effets sont visibles. Et Jésus compare cela au vent. Quand il vente fort, là, récemment, il y a eu comme une petite tornade là, dans Rosemont. On était dans un café, puis tout à coup, on a vu les chaises passer. Et boy! On ne peut pas voir le vent, mais on en voit les effets. On voit les branches qui bougent, l'herbe, on le sent. Mais le Saint-Esprit, c'est cela. Quand il fait un travail dans le cœur d'une personne, on ne voit pas le Saint-Esprit, mais on en voit les fruits. Et les fruits d'une nouvelle naissance sont visibles. D'abord, les fruits de la repentance. Quelqu'un qui est né de nouveau, tout à coup, a conscience de ses péchés puis ne se plaît plus être dans le péché. Il cesse de se trouver constamment des excuses puis dire « Ah, je suis un bon gars, je suis une bonne fille. » Il est touché puis il veut changer de vie, sincèrement. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Il a été comme recréé, né à nouveau. Et le Saint-Esprit va transformer son caractère. On lit dans... En Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc, une personne qui est née de nouveau, ça se passe dans le monde invisible, mais on va assister à une transformation sous nos yeux. On va en voir les effets. Puis le fruit de l'Esprit donne... l'espérance aussi dans le cœur. Donc, la personne peut même entrevoir la fin de ses jours, la mort, sans craindre la mort. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, le Saint-Esprit va donner une assurance qu'il y a quelque chose après la mort, que sa place est dans le royaume des cieux. Il lui donne une confirmation dans le cœur qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est sauvé, qu'il appartient au royaume de Dieu. Ici, Nicodème semble ne pas croire à ça. Et il continue d'argumenter, mais comment ça peut arriver? Et Jésus l'avertit que s'il ne croit pas, quand tu lui parles de ces choses-là, terrestres, la transformation de la personne, la nouvelle naissance, comment est-ce qu'il va croire quand Jésus va lui parler de ce qui se passe après? Les nouveaux cieux, la nouvelle terre pour l'éternité, la résurrection des corps. Si tu ne crois même pas à ce qui se passe dans cette vie sur terre, comment tu vas croire à ce qui se passe après? Bien, j'espère que Nicodème a fini par croire. Pourtant, Jésus dit, « Pourtant, nous rendons témoignage de ce que nous connaissons réellement. » Là, il parle au « nous », je pense qu'il s'associe aux prophètes qui ont été envoyés à répétition là, au peuple juif, dont le dernier est Jean-Baptiste. Et les pharisiens n'ont pas cru à ce que Jean-Baptiste disait. Les pharisiens ne se faisaient pas baptiser. Ils ne se repentaient pas. Ils croyaient qu'ils étaient au-dessus de ça. Ils n'avaient pas besoin de se repentir. Jésus s'associe aux au prophète pour dire « Vous ne croyez pas en nous, pourtant ce qu'on annonce, c'est un témoignage qui est vrai, que nous avons vu, c'est une révélation de Dieu qui nous est donnée. » Et Jésus, son témoignage est encore plus grand que celui des prophètes. Parce que Jésus dit « Il n'y a aucun homme qui est jamais monté au ciel pour aller voir ce qui se passe, puis qui est redescendu pour nous le dire, avec une révélation de Dieu. Aucun homme. » Il y a d'autres religions qui enseignent ça, que certains prophètes sont descendus du ciel avec une révélation. Jésus confirme qu'il n'y en a aucun. Le seul qui est descendu du ciel avec une révélation, c'est Jésus. Quand il est né sur terre, ce n'était pas le début de son existence. Il existait depuis toute éternité. Donc, il sait très bien ce qui se passe dans les lieux célestes. Il était dans la gloire divine. Il est descendu sur terre pour nous révéler cela. Donc, il faut vraiment y croire. C'est essentiel. Il est porteur de la parole de Dieu, puis même l'Évangile dit qu'il est lui-même la parole de Dieu. Il est la parole qui était avec Dieu depuis toute éternité. Il est la parole qui est Dieu. Donc, il est divin, éternel. Donc, croire à son témoignage est essentiel. C'est le Créateur lui-même qui vient dire à sa créature, « Voici ce qui se passe après la mort. Voici ce que vous devez faire, ce que vous devez croire pour hériter d'une place dans le royaume des cieux. » Donc, tout dépend vraiment là, de la foi qu'on donne, qu'on accorde aux paroles de cette révélation-là. Donc, bref, la nouvelle naissance est requise pour entrer dans le royaume de Dieu, puis elle est premièrement l'œuvre du Saint-Esprit. Et deuxièmement, comment on l'obtient? Parce que même si c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, ce n'est pas tous les hommes qui l'obtiennent. C'est par la foi en Jésus seul. Là, je vous rappelle quelque chose que vous savez déjà, mais c'est bon de se le rappeler. Il faut croire en Jésus. On le voit des versets 14 à 21. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? D'abord, croire qui il est. Pas seulement un faiseur de miracles, pas seulement un bon enseignant, un bel orateur, pas seulement un modèle de bonnes actions, de compassion. Il est le Fils de Dieu qui est venu sur terre nous sauver. Il est celui à qui Dieu a confié la mission en l'envoyant sur terre, va mourir pour ceux que j'aime, pour les élus. Mourir en sacrifice pour nous. Mais Jésus a accepté de venir parce qu'il nous aime, comme le Père nous aime. Et Jésus dit que, justement, en parlant de sa mission, que comme Moïse a élevé un serpent dans le désert, lui aussi, il faut qu'il soit élevé. Vous avez peut-être déjà lu cet épisode-là, c'est dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, alors que Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, en route vers la terre promise, le peuple d'Israël se rebellait à répétition contre Dieu, il murmurait, il le critiquait, il critiquait son serviteur Moïse, mais il critiquait Dieu par la même occasion. Et souvent, ils refusaient de faire ce qu'on leur demandait, comme des enfants rebelles. Puis Dieu, un jour, les a punis en leur envoyant des serpents venimeux, puis ils ont été mordus d'une morsure mortelle. Donc, ils auraient tous péri. Et ça aurait été juste. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il a dit à Moïse, « Fais un serpent en bronze, en airain, une sculpture, autour d'un poteau, élève-le. » C'est drôle, c'est devenu l'emblème de la médecine, ce serpent-là. Puis ce qu'il a dit à Moïse, c'est « Dis au peuple, et tous ceux qui ont été mordus, puis c'était tout le monde, bien, ils ont juste à se tourner vers le serpent des reins, le serpent de bronze, et ils vont être guéris. » C'est tout simple, mais c'était un test pour leur foi. Parce qu'il y en a qui ont accepté, ils ont dit « OK, ils sont sortis de leur tente, ils sont allés voir. » Ils ont regardé le serpent, ils ont été guéris. Et d'autres sont morts. Une chose toute simple, gratuite, et Dieu ne leur a demandé aucune œuvre de pénitence, aucune œuvre de réparation, simplement une action de foi dans le moyen du salut qu'il avait mis ce jour-là à disposition du peuple. Mais Jésus compare ce serpent élevé à lui-même, qui doit être élevé. Comment il a été élevé? Mais on le voit à la fin de l'Évangile, il a été levé sur la croix, exposé en spectacle, et la malédiction est tombée sur lui. Et ce que les hommes ont à faire pour être guéris de leur mort spirituelle, c'est simplement de tourner les regards vers Jésus, de croire en ce sacrifice-là. Croire en Jésus élevé sur la croix, ça veut dire croire vraiment au sacrifice de Jésus, et ils sont sauvés, ils sont guéris. Étrangement, il y a des millions de personnes qui refusent de le faire. Donc, c'est un test de la foi. Dieu soumet au test de la foi à la population mondiale. Au verset 16, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu, qui est en colère contre le monde, et c'est une colère justifiée, le monde entier mérite de mourir parce que tout le monde s'est rebellé contre Dieu, tout le monde a péché. Et il s'est rappelé constamment là, dans le Nouveau Testament qu'un jour, le monde va subir sa colère. Pourquoi tout à coup Dieu permet un moyen comme cela, gratuit, pour que les gens soient sauvés? C'est parce que Dieu aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça nous dépasse. On pourrait méditer des semaines entières sur ce verset-là. Le Dieu créateur, qui est trois fois saint, qui a sa créature qui s'est rebellée contre lui, qui ne veut rien savoir, qui lui tourne le dos, qui est devenu même ses ennemis, Dieu les aime. Quand on regarde la grandeur de l'univers, on est une microscopique planète, des êtres insignifiants, que le grand créateur qui tient l'univers dans sa main, là, nous aime, au point de donner, c'est le plus précieux. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu donner, mais il a pris son Fils unique, son bien-aimé, l'objet de toute son affection, qui était dans l'unité avec lui depuis toute l'éternité. Il lui a dit, tu vas aller sur la terre, et même pendant un temps, il a été séparé, là, parce que Jésus a porté les péchés. Donc, il l'a livré pour être en sacrifice pour des créatures méprisables. Il a livré un sacrifice pour que quiconque, n'importe qui, croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, croit en lui, soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc, ça rejette toute œuvre pour être sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas vrai qu'on peut tout à coup dire « OK, je vais faire de mon mieux. De toute façon, j'ai déjà plusieurs bonnes actions à mon actif. Je vais en faire d'autres, des bonnes œuvres. Puis un jour, Dieu va trouver que j'en ai fait suffisamment. J'aurai ma place dans le royaume des cieux. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai non plus que nos bonnes actions, nos mauvaises actions sont comme sur une balance. Et si ça penche du bon côté, Dieu va nous faire miséricorde puis va nous faire entrer. Il n'y a rien que l'on peut faire. Il n'y a aucun acte de pénitence, de réparation qui va changer le fait qu'on a fait des mauvaises actions contre Dieu et qu'on a un casier judiciaire, qu'on est coupable et qu'on est même déjà déclaré coupable et la condamnation pèse sur nous. Le seul moyen d'être sauvé, c'est que cette condamnation-là soit enlevée. Et pour ça, il fallait que quelqu'un d'autre la paye et c'est ce que Jésus a fait à la croix. De payer notre dette. C'est vraiment au cœur de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et si vous croyez à cela de tout votre cœur, vous êtes sauvés. Et c'est la mission de Jésus en venant sur terre, sauver le monde. Quand on lit tout l'enseignement de Jésus, d'abord, ça va culpabiliser les gens. Parce que Jésus, le standard qu'il fixe là, au niveau de son éthique, c'est tellement élevé que ça révèle, ça met en lumière... comme les ténèbres qui sont en nous. Ça met en lumière le péché, puis à première vue, ça semble condamner le monde. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner parce que le monde est déjà condamné. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour aller condamner le monde. Le monde est déjà condamné et a envoyé Jésus pour en sauver quelques-uns. Ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont regarder à lui. Donc, il y a seulement deux destinées possibles. Peu importe si on croit à Jésus ou pas, il y a deux destinées possibles. Périr pour l'éternité ou être sauvé et avoir la vie éternelle dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre voie. Et depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a une cause de condamnation supplémentaire qui pèse sur le monde. C'est que le monde a rejeté l'offre gratuite de Dieu. Ça s'ajoute au chef d'accusation. C'est comme si le monde, depuis que Jésus est venu, la condamnation est encore plus lourde. Dieu offre le moyen d'être sauvé et le monde ingrat la rejette. Donc, les gens ne seront pas simplement punis parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont, en plus, rejeté le moyen d'être sauvé, rejeté Jésus. Le monde, pourquoi ça arrive? Ça, c'est parce que le monde est dans les ténèbres, comme dit Jésus, à cause de la corruption, parce que les humains sont pécheurs. Et les humains pécheurs marchent dans un monde de ténèbres et ils préfèrent les ténèbres. Ils préfèrent être comme cachés sous les ténèbres. Quand Adam et Ève ont péché la première fois, ils sont allés se cacher. Là. Ils ne voulaient pas être vus. Mais c'est une raison normale du monde de ne pas vouloir voir la lumière. Lorsque la lumière est venue, Jésus, le monde n'en a pas voulu et même le monde a détesté la lumière. Parce que quand la lumière vient, elle met en évidence la honte, le péché. Mais ceux qui naissent de nouveau, leur vie est transformée et tout à coup, ils aiment la lumière. Ils vont avec joie à Jésus. C'est un autre fruit d'une évidence de l'œuvre du Saint-Esprit qui est invisible, mais dont on en voit les effets. La personne, tout à coup, n'est plus gênée de lire la Bible et de voir son propre cœur. Elle va aimer aller à Jésus pour être transformée. Il y a une joie d'être en présence de Jésus. Et les vrais croyants nés de nouveau pratiquent maintenant la vérité comme Jésus, c'est-à-dire le bien, ce qui est juste selon Dieu. Donc, en allant à Jésus, à la lumière de son enseignement, bien, tout à coup, c'est manifeste que les œuvres des croyants sont bonnes. Même les non-croyants doivent constater que les chrétiens font du bien, qu'ils sont justes, qu'ils sont intègres. Du moins, en tout cas, que les chrétiens le font de mieux en mieux. Ils progressent. Donc, en résumé, seuls ceux qui sont nés de nouveau, nés d'en haut, pourront voir le royaume de Dieu et y entrer. Cette nouvelle naissance-là a lieu à un moment pendant notre vie sur terre. Après la mort, il est trop tard. C'est pendant qu'on est vivant sur terre qu'on a l'occasion, l'opportunité qui nous est offerte pour naître de nouveau. Cette nouvelle naissance-là est accomplie par le Saint-Esprit. Donc, il faut absolument renoncer à tenter de gagner soi-même une place au ciel. Si quelqu'un est sur une voie où est-ce qu'il met ses efforts pour plaire à un Dieu, tenter de lui être agréable et tenter d'avoir une place avec lui, ça veut dire qu'il n'est pas sur la bonne voie. Il faut vraiment renoncer à cela pour mettre toute sa confiance en Jésus. Parce que le salut est une pure grâce. Donc, il faut accepter que c'est une grâce, même si c'est dur sur l'orgueil, puis l'accepter, accepter cette offre. Cette nouvelle naissance-là est obtenue par la foi en Jésus. La foi dans un prophète ne peut pas sauver. La foi dans une personne décédée, même si on aimait beaucoup notre grand-mère décédée, même si on l'a pris, on l'invoque, ça ne peut pas nous sauver. La foi dans le pape ne peut pas nous sauver. Et la foi simplement en Dieu ne peut pas nous sauver non plus. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, je crois en Dieu » ou « Je crois en un Dieu ». Est-ce que Dieu nous demande de croire, là? C'est de croire en son Fils, et particulièrement au sacrifice de son Fils. Croire que Dieu existe, ça, même les démons y croient. Mais Dieu nous demande et même exige que l'on croie dans le moyen qu'il met à notre disposition. C'est le sacrifice de son Fils. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, si quelqu'un n'est pas capable de professer qu'il croit en Jésus et qu'il sait que Jésus est mort pour lui sur la croix, c'est qu'il n'a pas compris l'Évangile. Qu'il n'a pas saisi le moyen d'être sauvé. Donc, l'invitation nous est relancée. Croyez en Jésus. Donnez-lui votre vie. Ou si vous vous êtes refroidi, reconsacrez votre vie à lui. Avouez vos péchés. Acceptez qu'il a payé votre dette à votre place, sur la croix. Et c'est sûr, Dieu l'a promis, vous allez recevoir le Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait renaître, qui fait naître de nouveau, naître d'en haut. Vous serez des enfants de Dieu, des citoyens du royaume des cieux. Dieu nous aime. Et nous pouvons être sûrs que s'il a livré son propre Fils pour nous, c'est sûr qu'après notre mort, il va tenir promesse. Il a déjà prouvé à quel point il nous aime. Donc, c'est sûr qu'après notre mort, ce qui nous attend, c'est une vie éternelle dans sa présence, où il va sécher nos larmes. Il n'y aura plus de deuil, plus de tristesse, plus de maladie, plus de vieillesse, plus aucune douleur dans son royaume pour l'éternité. Romains 8 dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui aussi par grâce? Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.